micro-ondes.
Une émission qui vous tient
à contre-courant
le samedi
de 13h à 14h.
On vous parle de sujets brûlants,
mais c'est pas du réchauffé.
Une émission qui s'attaque
au racisme,
aux frontières
et aux injustices sociales.
À l'intérieur,
pas de l'alu, que de la lutte.
En direct sur Radio Campus
90.8
FM ou en streaming sur campusgrenoble.org.
Et en podcast
sur le-tami.info
ou sur le site de Radio Campus Grenoble. Bonjour et bienvenue dans l'émission Micro-ondes, l'émission qui vous tient à contre-courant. On va être ensemble jusqu'à 14h sur Radio Campus Grenoble 90.8. Et pour l'émission d'aujourd'hui, on vous propose de continuer notre feuilleton qu'on a commencé la semaine dernière, qui est donc un ensemble d'interviews qu'on a co-réalisé avec Ralph Ron. Après Éric Fassin la semaine dernière, on vous propose aujourd'hui d'écouter l'interview de Saïd Bouamama. Saïd Bouamama, c'est un sociologue spécialisé sur les questions de discrimination et de domination. Et aujourd'hui, il a été invité pour nous parler un petit peu plus de comment les forces au pouvoir et notamment le néolibéralisme essayent de résister face aux crises actuelles en imposant une logique autoritaire et ce qu'il appelle une chasse aux sorcières et en créant de nouveau des ennemis intérieurs. On vous laisse l'écouter tout de suite.
Saïd Bouamama, tu es sociologue ? Spécialiste des questions de discrimination et de domination et très impliqué dans les luttes antiracistes, les inégalités, les questions liées au quartier populaire, ça je résume à l'extrême bien sûr, et en particulier avec le FUIQP, Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires. Alors, on va partir d'un récent article dans Contretemps et qui est également sur ton blog. Tu as écrit en parlant des attentats, refuser, empêcher ou rendre impossible la réflexion sur les causes est une procédure classique de la gestion des crises des classes dominantes. Et tu ajoutes, sa fonction est de faire taire toute critique et de museler la colère sociale. Alors de fait, la crise sanitaire et les attentats ont fourni au pouvoir l'opportunité d'une attaque en règle sur nos libertés et sur nos droits, et l'accompagne d'une offensive idéologique sans précédent, avec notamment deux points que personnellement, on est beaucoup à le ressentir très fort. D'une part, alimenter les peurs pour provoquer un réflexe de recherche de sécurité auprès d'une partie de la population, et même pas mal. Et également, construire un ennemi intérieur. On en a connu plusieurs, mais maintenant c'est clairement et essentiellement les musulmans. Et le pouvoir attise actuellement l'islamophobie. Donc, comment analyses-tu les formes que prennent cette dérive autoritaire, que tu nommes macartisme, et la propagande qui aurait pour fonction de la justifier? Voilà un peu le thème qu'on te propose.
Très bien.
Tu es d'accord.
Alors, pour bien saisir notre séquence historique, bien saisir l'enjeu de la période actuelle, il faut la resituer dans un temps un peu plus long. En réalité, nous vivons aujourd'hui les limites de ce qui a été imposé par la force, imposé par l'idéologie, au cours de ces quatre dernières décennies. Autrement dit, nous sortons de la période où la logique néolibérale avait réussi à tisser un minimum de légitimité pour justifier la casse de tous les conquis sociaux. Cela au niveau mondial comme au niveau national, nous assistons à la fin de cela. À la fin de cela qui est issu de quoi ? Ça qui est issu de la remontée des luttes au niveau international comme au niveau national. L'année 2019, par exemple, a été une année qui est parlante à ce niveau-là, puisque l'année 2019, ça a été les grands mouvements au Soudan, les grands mouvements en Algérie, les grands mouvements dans un certain nombre de pays. Bref, on assiste à la fin du processus de recul des classes populaires partout dans le monde. Et au niveau national, eh bien, on a la même temporalité. Au niveau national, c'était les Gilets jaunes qui montraient les effets des politiques néolibérales sur quatre décennies, et qui montrait la paupérisation massive qui avait touché ce pays, qui était encore médiatiquement invisibilisé, qui montrait le degré de précarisation atteint par notre société, et qui montrait que, y compris certaines parties des couches moyennes, avaient été déclassées. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est donc l'expression de cet affaissement de la société, de cet détricotage de tous les conquis sociaux. Et donc, la séquence actuelle vient après cette nouvelle montée des luttes, et ces luttes n'ont pas cessé depuis. Entre le mouvement des Gilets jaunes qui a été massif, le mouvement contre la réforme de retraite pour lesquels depuis plusieurs décennies on n'avait pas compté autant de personnes mobilisées, le mouvement contre les violences policières ensuite. Bref, et plus récemment, le mouvement des sans-papiers qui a de nouveau montré sa capacité de mobilisation. Autrement dit, nous sommes dans une période, depuis 2-3 ans, de remontée des luttes sociales et de remontée des luttes radicales. Et donc, en termes de signification, c'est la compréhension systémique de ce que c'est que le néolibéralisme, même si les gens n'utilisent pas le terme néolibéralisme, même s'ils n'utilisent pas le mot capitalisme, c'est la perception de ce à quoi mènent ces politiques qui nous ont été présentées comme incontournables, comme les seules possibles, comme les seules souhaitables, etc. Et donc cela va signifier pour les différents pouvoirs, et en particulier en France pour Macron, une véritable crise de légitimité. Avant la pandémie elle-même, la crise de légitimité de ce pouvoir était largement atteinte. Et le choix de réprimer ces mouvements sociaux comme on l'a connu, c'est-à-dire de généraliser des pratiques policières qui étaient déjà existantes depuis plusieurs décennies dans les quartiers populaires à l'encontre des habitants des quartiers populaires et en particulier des Noirs et des Arabes de ce pays, le choix de le généraliser est tout simplement également le reflet de cette crise de légitimité, cette peur d'un débordement, cette peur d'une massification de la contestation. La pandémie va venir avec cela renforcer encore cette crise de légitimité. Et elle va la renforcer autour de au moins deux grandes dimensions. D'abord, une pandémie, comme tous les grands phénomènes qui arrêtent l'économie ou qui arrêtent ou qui freinent massivement l'économie, que ce soit la crise climatique, que ce soit une crise économique ou que ce soit un grand incident climatique, à chaque fois, eh bien, ça révèle des dimensions qui étaient cachées dans le fonctionnement habituel de la société. Autrement dit, à chaque fois qu'une société est confrontée à une crise massive comme celle-là, ce qui était masqué par l'idéologie apparaît au premier plan. Or, là, en l'occurrence, ce qui est apparu au premier plan, ça a été les effets sur le système de santé des choix néolibéraux, de restrictions budgétaires, de fermeture de lits, etc. Et un certain nombre de citoyens qui étaient déjà en colère ont pris la conscience du caractère complètement destructeur de ces choix néolibéraux. Secondo, cette pandémie a été également marquée par des choix de gestion qui ont été des choix dont la seule préoccupation était de remettre au travail les salariés indépendamment, y compris dans des secteurs qui n'étaient pas vitaux, indépendamment des conséquences sur ces salariés. Et donc, ça va venir accroître encore ce contexte de crise de légitimité. Et c'est au sortir de cette première phase de pandémie que l'on voit apparaître l'effervescence législative de ce gouvernement, qui est une effervescence qu'il faut vraiment analyser comme étant pas simplement la suite d'une tendance autoritaire. Il s'agit d'un cap qualitatif, d'une peur de la contestation sociale. On a un certain nombre de rapports qui soulignaient que les quartiers populaires étaient au bord de l'explosion au sortir de la première phase. On a vu des queues de la faim dans un certain nombre de quartiers populaires. On a vu les associations caritatives être débordées sur la distribution d'aliments dans les quartiers populaires. La pandémie étant venue accélérer quelque chose qui était déjà massif antérieurement. Mais le gouvernement fait bien son travail. Il a de très bons services d'information qui lui montraient également la colère qui existait, la colère sociale diffuse qui existait dans les classes populaires, mais également dans les classes moyennes. L'inflation législative que nous connaissons aujourd'hui est une inflation qui vise à anticiper les révoltes sociales qui peuvent émerger du fait de cette colère sociale et de cette crise de légitimité. Et donc, ce qui nous arrive aujourd'hui ne doit pas être perçu sous l'angle de chacune des lois qui se succèdent. Il doit être perçu sous la forme d'un système. Ces différentes lois ne sont pas des lois séparées, elles sont des lois qui s'inscrivent dans un rouage visant à empêcher l'émergence de contestations sociales massives, convergentes, pouvant remettre en cause la dimension systémique. Il y a donc un système législatif qui se met en place. Je parle en particulier de quatre éléments à prendre en compte. Premièrement, la loi sur la programmation de la recherche, dont on a trop peu parlé au niveau militant et au niveau médiatique. Cette loi, pour la première fois dans toute l'histoire de la recherche en France depuis la Seconde Guerre mondiale, vient conditionner la liberté académique au respect de pseudo-valeurs de la République qui ne sont jamais définies. Or, nous savons très bien que à chaque fois qu'au niveau législatif est posée une notion qui n'est pas définie, eh bien, ça veut dire qu'on peut la définir comme on veut, au gré des besoins tactiques, au gré des besoins immédiats, au gré de l'adversaire que l'on veut désigner. Et donc, lorsqu'on met au cœur d'une loi cette notion de valeur de la République et qu'on conditionne des libertés à cette notion floue, on s'autorise à pouvoir taper qui à n'importe quel moment, qui l'on veut à n'importe quel moment. Et donc on a là pour la première fois l'attaque contre la liberté d'expression, cette fois-ci de la recherche. Ça n'est pas un hasard si cela va venir également en même temps que l'accusation d'islamo-gauchisme qui a été lancée à un certain nombre de leaders politiques, de chercheurs, etc. Autrement dit, il s'agit là de prévenir que cette accusation d'islamo-gauchisme pourrait être invoquée à chaque fois que l'on estimera qu'un discours critique vient contrevenir ces fameuses valeurs de la République qui ne sont pas définies. Donc on a une première là qui vise à cerner la pensée autorisée et à désigner la pensée qui n'est pas autorisée. Quelle est la pensée qui est autorisée et quelle est la pensée qui n'est pas autorisée? La pensée autorisée est celle qui n'interroge pas les causes de la situation, celle qui se contente de décrire le réel. Ça, on peut toujours décrire le réel. On aura le droit, je rassure, ça sera pas encore le fascisme, on aura le droit de décrire des éléments de dysfonctionnement, mais on n'aura pas le droit d'interroger les causes. On le voit bien à propos des attentats, à propos du terrorisme ou à propos du djihadisme. On voit bien que ce qui est interdit, c'est d'interroger la question qui vient dans toute logique. Qu'est-ce qui fait que certains, une partie extrêmement minoritaire de nos enfants, en arrivent à tuer en se tuant? On arrive, au lieu de penser à leur vie et à construire leur existence, on arrive à être attiré par des sirènes réactionnaires et des sirènes terroristes. Et donc cette question-là de qu'est-ce qui produit des terroristes n'est jamais posée et on s'interdit de la poser. Donc ça c'est pour la première loi. Mais cette première loi, elle n'est pas suffisante. Elle peut produire de l'autocensure, mais elle n'est pas suffisante pour empêcher les contestations sociales. Il va donc falloir, on va donc enclencher une seconde loi qui est la loi sur la sécurité globale. Loi sur la sécurité globale qui vient donner les moyens matériels, les moyens législatifs pour réprimer massivement des mouvements sociaux, pour réprimer massivement en toute légalité l'autorisation je parle des lois initiales, même si après elles sont modifiées en fonction du rapport de force et des réactions qui en découlent du Conseil constitutionnel. Mais cette loi, en gros, trois grands axes. Ils sont présents: l'autorisation de la surveillance tout azimut, secondo la possibilité d'interdire la diffusion d'images de cette répression, et enfin troisièmement les pouvoirs supplémentaires que l'on accorde aux policiers municipaux et aux agents de la sécurité privée. Autrement dit, l'État se donne les moyens d'une mobilisation rapide d'un très grand nombre d'agents de force de l'ordre en cas de mouvement massif dans ce pays. Et donc on voit bien en quoi, à côté de la première loi de programmation de la recherche qui vise à empêcher la pensée critique, une seconde loi qui vise à se donner les moyens de la répression. Mais comme cela n'est pas suffisant également, on va initier une troisième loi. Et cette troisième loi, c'est laquelle? Eh bien, cette troisième loi, c'est la loi sur les séparatismes, qui a été renommée loi confortant les valeurs de la République, les principes républicains. Cette troisième loi, elle désigne l'ennemi. Puisque on interdit la contestation sociale, il faut détourner la colère sociale existante. On sait très bien qu'une colère sociale ne disparaît pas d'elle-même. Il faut donc lui donner une cible. Il faut lui donner une catalyse. Et cette catalyse, eh bien, ça va être la présentation d'un ennemi de l'intérieur. Cet ennemi de l'intérieur, il est tout désigné compte tenu des débats qu'on a connus ces quatre dernières décennies. Eh bien, l'ennemi qui a été construit déjà dans les médias, construit déjà dans le discours politique antérieur comme menaçant la République, menaçant la laïcité, menaçant le droit des femmes, c'est le musulman ou le supposé tel. Et donc, avec ce concept de séparatisme, le gouvernement actuel vient transformer cette accusation permanente du musulman en quelque chose de plus immédiat. Le péril est imminent, le péril serait imminent, le péril serait immédiat, et il faudrait dans l'immédiat, eh bien, agir. Or, cette loi, elle vient tout simplement justifier, autoriser des politiques de surveillance particulières, spécifiques. C'est donc une loi d'exception. C'est une loi qui permet d'appliquer à une partie de la population des règles qu'on n'applique pas à d'autres. Et donc, c'est une pratique d'exception. Eh bien, cette troisième type de loi vise à détourner la colère vers une partie de la population que l'on va présenter comme responsable et comme cause de tous les maux de notre société. C'est elle qui serait à la base du terrorisme, c'est elle qui serait à la base de la crise de la laïcité, c'est elle qui serait à la base de toute une série de maux sociaux que l'on nous présente. Et donc on a bien là une dimension de système. Et comme si ça suffisait pas, eh bien on va également rajouter une quatrième dimension qui est cette fois-ci non pas législative mais par décret, qui a été l'élargissement du champ des personnes que l'on peut ficher légalement. Trois des fichiers actuels existants ont été élargis dans leur cible, et donc on voit bien que ce qui se met en place, ce ne sont pas des lois qu'on peut aborder séparément les unes des autres. Il s'agit bien d'un système législatif qui est mis en place actuellement. Et donc c'est l'ensemble de ce contexte qu'il faut prendre en compte si on veut comprendre cette conception du macartisme. Qu'est-ce que j'utilise ? Pourquoi je caractérise ça de macartisme ? Les années 50 aux États-Unis voient un scénario qui est non pas le même, mais qui a de très nombreuses ressemblances avec ce que nous vivons aujourd'hui en France, puisque à l'époque l'accusation était celle de communisme et de danger de subversion communiste immédiate. Donc on annonçait des espions communistes partout aux États-Unis et des dangers de coup d'État et d'insurrection à l'intérieur des États-Unis. Et aujourd'hui, l'accusation de séparatisme pour les uns et d'islamo-gauchisme pour les autres joue la même fonction que l'accusation de communisme à l'époque. C'est également la même chose au niveau des effets. Au niveau des effets, aux États-Unis, le macartisme a permis un double effet. Il a permis d'une part de légaliser une répression qui était inimaginable auparavant, une répression légale, donc des gens ont perdu leur emploi, des gens ont été éliminés de la fonction publique, des gens ont été interdits d'un certain nombre de professions, et aujourd'hui, eh bien, on a le même risque qui peut être mis en œuvre avec cette idée de non-respect des valeurs de la République. Demain, on pourra s'opposer, avec la loi sur la programmation de la recherche, à la promotion d'un universitaire, à l'attribution d'un poste, en fonction du respect ou non de ces fameuses valeurs de la République. Demain, on pourra refuser l'attribution d'une subvention à une association qui fait un travail d'utilité publique uniquement parce qu'on estimera qu'elle ne respecte pas les valeurs de la République qui, encore une fois, ne sont jamais définies. Donc, sur le plan des effets répressifs, on a la même chose. Mais surtout, il y a une seconde dimension qui, pour moi, est encore plus dangereuse, qui est ce que j'appellerais l'effet, parce que un pouvoir dominant ne domine jamais uniquement par la répression. Ça ne suffit jamais. Antonio Gramsci, un grand théoricien marxiste italien, soulignait à juste titre dans son concept d'hégémonie culturelle que pour qu'une domination dure de manière efficace pour les dominants, eh bien, il faut que les dominés intériorisent, soient formatés par l'idéologie dominante. Eh bien, là, il s'agit de diffuser une dimension d'autocensure. La peur d'être accusé d'islamo-gauchiste peut amener un certain nombre de personnes à se taire sur des choses qu'ils estiment scandaleuses. La peur d'être accusé de séparatistes peuvent amener un certain nombre de nos concitoyens, musulmans ou supposés tels, à ne pas s'engager dans tel ou tel combat, dans telle ou telle lutte, parce qu'effectivement la répression pourrait être importante. Il s'agit donc de provoquer un phénomène de peur conduisant à l'autocensure, conduisant au silence sur un certain nombre de questions. La réalité actuelle nous le confirme d'ailleurs. Autant je me réjouis du caractère massif des mobilisations de ces dernières semaines contre la sécurité globale, autant nous sommes contraints de constater qu'en ce qui concerne la loi sur le séparatisme, eh bien, un certain nombre d'associations qui étaient présentes dans les mobilisations sur la sécurité globale n'étaient pas présentes dans la loi sur le séparatisme. Autrement dit, ces lois ont été séparées, ont été hiérarchisées, ont été considérées comme des réalités différentes et non pas comme des rouages d'un même système. Pour certains, eh bien, ça correspondait à une islamophobie déjà existante, mais pour d'autres, il s'agit de peur, il s'agit d'autocensure, il s'agit de la crainte d'être accusé d'islamo-gauchiste, d'être accusé d'être les idiots utiles ou les complices d'un séparatisme djihadiste. Et donc là aussi, à l'époque du macartisme aux États-Unis, on a eu 32 personnes qui ont retenu leurs propos, retenu leurs critiques par peur d'être eux-mêmes touchés par la répression. Eh bien, c'est cette dimension d'autocensure que l'on tente de diffuser également aujourd'hui. Et donc, on a aujourd'hui cette situation d'imposer par la violence législative, mais aussi par la peur, eh bien, une unité nationale qui détourne les colères sociales et qui détourne vers un bouc émissaire. Alors, si on a tout ça en tête, il faut également introduire l'ensemble de cette crise dans la dimension internationale. Dans la dimension internationale, parce que la France est un pays qui intervient beaucoup à l'extérieur, et c'est important de prendre en compte ces deux dimensions. Aujourd'hui, trop d'analyses séparent la dimension internationale et la dimension nationale. La France est en difficulté, est un impérialisme en difficulté dans un certain nombre de pays aujourd'hui. En difficulté parce qu'il entre en concurrence avec d'autres impérialismes plus compétitifs que lui. En difficulté également parce qu'il y a des mouvements populaires dans un certain nombre de colonies aujourd'hui, de colonies ou de néocolonies, qui remettent en cause les ingérences françaises. On le voit bien au Mali aujourd'hui. Et au Mali, où on a un mouvement populaire, le 21 janvier a eu une grande manifestation à Bamako exigeant le retrait des troupes françaises, mais on le voit bien dans de nombreux autres pays. La critique du franc CFA est une critique qui est massive également aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Autrement dit, l'impérialisme français est confronté aujourd'hui à une remise en cause de ses places fortes, de ses places qui étaient traditionnelles. La seule manière pour lui de pouvoir se maintenir, de pouvoir garder sa place internationale, eh bien, c'est d'être guerrier. Et c'est pas un hasard si la France est un des impérialismes les plus intervenants à l'extérieur. Et pour pouvoir justifier ces interventions, eh bien, nous retrouverons une nouvelle fois l'islamophobie. Il faut justifier, créer un consentement aux interventions extérieures. Et créer ce consentement aux interventions extérieures, c'est présenter l'existence d'un ennemi qui serait le même que celui qu'il y a ici. Et c'est pour cela que les dimensions internationales et les dimensions nationales convergent vers la construction des musulmans, ou supposait-elle, comme danger pour la République, comme danger pour nos sociétés. Et donc, on voit bien qu'on n'a pas affaire là à quelque chose de secondaire. Il ne s'agit pas d'une fièvre autoritaire de Macron. Il s'agit d'une crise de légitimité du système social, et ce qui signifie qu'à la fois ce système est faible et à la fois qu'il est dangereux. Il est faible parce que jamais une classe dominante n'utilise la force quand elle peut s'en passer, n'utilise la fascisation quand elle peut s'en passer, et donc on a affaire aujourd'hui à un pouvoir faible qui devrait nous donner du punch dans le combat social qui est le nôtre. Nous commençons à gagner, en réalité c'est ça qui est signifié ici, et en même temps dangereux, parce que c'est dans ces périodes-là que les dominants sont les plus dangereux et peuvent effectivement utiliser des méthodes qui sont barbares. Et donc voilà pour moi quel est le contexte d'aujourd'hui, avec une ligne de front qui est la ligne de front des présidentielles. Tout cela a pour vocation une préparation des présidentielles. Cette accélération, elle vise aussi à préparer une année 2021, juste après les présidentielles, dans lequel il s'agit de d'imposer un thème qui viendrait dépasser les autres thèmes, les véritables thèmes de notre société, d'imposer le thème du danger islamiste en lieu et place de la pauvreté, en lieu et place de la précarité, en lieu et place de la destruction des services publics, en lieu et place des interventions militaires et des morts qui commencent à se multiplier. Et bref, il s'agit de détourner l'attention vers un autre sujet. Pourquoi cela ? Eh bien, parce que la seule manière pour maintenir la politique actuelle qui est une manière qui est rentable en termes de profit pour les grands groupes monopolistes, la seule manière de le faire, c'est d'imposer un choix présidentiel binaire, Macron, Marine Le Pen. Et c'est cela qui est en train d'être préparé, éliminer toutes les autres possibilités électorales en centrant le débat sur un péril islamiste qui amènerait le choix entre un Macron et une Marine Le Pen. Et donc on a bien là une instrumentalisation idéologique de problèmes réels pour les faire jouer dans les intérêts de la classe dominante. Voilà ce que je peux dire sur ces questions-là.
If you think this song is about you, I don't know what to tell you.
On fait tout de suite une courte pause musicale pour écouter Dog de Mona Haidar.
Cherche on the DL, cherche my DM, begging me to shake it on my cam in the PM. Cherche on the DL, cherche my DM, riding in the Addy like a Saudi Arabian. A teacher, a guru, ooh, you just some doodoo. Said I own the whole souk, but you just a produce. Boy, you ain't got no juice. Boy, you drive a old coupe. Too little for your ego, and I cannot give you no boost. Say my voice is hot on, cause you getting turned on. Boy, you might need Quran. Boy, you need a turn down. Got my full hood on, got my full hood on. Sultan Mar'a Thawra, got my full hood on.
See them flashy CDs in their CD suits. Kufi turbans and the prayer beads they're rocking to. Twitter, Insta, hear those howls. When the sun sets, trying to hunt me down.
So you can see my spirit.
He's a dog,
he's a dog,
he's a dog,
he's a dog,
he's a dog.
All you need, tell me how come you got a wife.
Now that we've been in his cookie,
he's a dog,
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 he's a dog.
Not a yummy cookie, no looky, looky, looky. I am not a rookie, better watch out for a dookie. Min, fadlak, ghad, basarak, min. Fadlak, ikhsha, rabak.
Spiritually violent, deviant but hiding it. You can't sell enlightenment, laugh at your entitlement.
Panel on women, only dudes. Excuse me? Really? Rude.
Emotional terrorist, thinking that you're airless. But you need a therapist.
Boy, you need an exorcist.
Throwing up them gins, ghosts.
No fly list, coast to coast.
Baby, habibi, pretty, please. But you work at Chuck E. Cheese.
You get grays, they don't age. Robin, cradles, middle age.
See, you can see my spirit, but you're a dog at night.
We can see right through him, he's a dog. He's a dog,
he's a dog,
he's a dog,
he's a dog,
he's a dog.
All you need, tell me how come you got a wife.
Now that we've been in his cookie,
he's a dog,
he's a dog.
He's a dog,
he's a dog,
he's a dog,
he's a dog.
Shifts on the DL, shifts in my DM. Begging me to shake it on my cam in the PM. Shifts on the DL, shifts in my DM. Riding in the Audi like a Saudi Arabian.
Sorry, I have allergies, allergic to your salary. And when you call me sweetie, you are giving me a cavity. Boy, you're too much calories, obsessed with my anatomy. And your flattery is just a mirror for your vanity.
Save you can save my spirit.
He's a dog,
he's a dog,
he's a dog,
he's a dog,
he's a dog.
All you need, tell me how come you got a wife.
Now that we've been in his cookie,
he's a dog,
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 he's a dog.
Say, you can save my spirit, but you're a dog at night.
We can see right through him,
he's a dog,
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 he's a dog.
He's a dog.
He's a dog.
He's a
toujours sur Radio Campus Grenoble et à l'écoute de l'émission Micro-Ondes sur le 90.8 FM et en podcast sur le site de Radio Campus Grenoble. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h et on poursuit l'écoute de l'interview de Saïd Bouamama, réalisée par Ralph Ron et Micro-Ondes.
Moi, j'ai une question, Saïd. Quand tu parles de relations internationales et du coup, notamment de voilà, comment se positionne la France sur la scène internationale, tu parles surtout de hard power entre guillemets, c'est-à-dire d'intervention militaire, etc. Quel rôle jouent les pressions internationales en matière plutôt de respect des droits de l'homme, d'image de la France? Enfin, je sais que là, pendant l'automne, justement, il y a eu beaucoup de contestations à l'international, des ambassades de France qui ont été attaquées, brûlées, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui, à un moment, va venir empêcher la France d'être trop dans son maccartisme poussé à l'extrême, etc. Elle qui se prétend encore la patrie des droits de l'homme. Enfin, voilà. À quel point aujourd'hui cette image-là est importante pour elle et peut la freiner?
Alors, il est difficile de répondre précisément à la question puisque on est sur un mouvement cumulatif. Ce qui est certain, c'est que depuis plusieurs années, le soft power, le discours sur la France pays des droits de l'homme qui viendrait de manière désintéressée, qui soutiendrait les transitions démocratiques, qui ce discours-là marche de moins en moins. Les populations des pays dominés le ramenant aux effets concrets. Par exemple, sur le Mali, ça n'a pas été une prise de conscience spontanée. Sur le Mali, ça a été le résultat de l'expérience. Autrement dit, on s'est aperçu que la lutte contre le terrorisme au Mali, justifiée par la défense de la souveraineté, des droits de l'homme, de l'État malien, en réalité, justifiée le maintien d'une présence militaire sans aucun effet sur le djihadisme, et voire même, on le sait aujourd'hui, avec des pratiques d'utiliser à certains moments des groupes djihadistes pour maintenir la présence d'un danger de telle sorte que l'État malien soit contraint d'accepter la présence française. Et donc on a une diminution de cette légitimité internationale. Est-ce que cela suffira pour que la France adopte une position plus raisonnée, une position moins prétentieuse, moins agressive sur ces questions-là? Tout dépendra de l'ampleur de la contestation. À l'heure d'aujourd'hui, on est encore dans une situation dans laquelle il y a l'illusion qu'on peut encore maintenir une présence française avec une pseudo-complicité d'un certain nombre de pouvoirs, etc. On a une bonne illustration de ce qui se joue en termes d'équilibre avec la question du franc CFA. La question du franc CFA, les gouvernements étaient en réalité d'accord pour maintenir le franc CFA. La contestation est venue des mouvements sociaux, elle est venue des mouvements populaires, et elle a été telle qu'un certain nombre de chefs d'État africains ont été contraints de mettre en avant l'idée qu'il faut sortir du franc CFA. Mais ça a été pour faire quoi? Eh bien, le rebondissement de l'État français, ça a été de proposer, avec un certain nombre de ses valets africains, de proposer la création de l'écho, donc une nouvelle monnaie qui était censée remplacer le franc CFA, et qui effectivement change de nom, donc ça... Le caractère scandaleux et provocateur du nom France CFA de l'époque coloniale disparaît, mais l'écho reste arrimé à l'euro, c'est-à-dire joue exactement les mêmes fonctions que le franc CFA auparavant. On change la couverture, on change l'étiquette pour maintenir les éléments. L'État français, l'impérialisme français ne peut pas se permettre de perdre ses colonies et ses néocolonies. Et en conséquence, il ne le fera que s'il est contraint de le faire par les mobilisations populaires. Contraint là-bas par la mobilisation des premiers concernés, mais contraints ici parce que ce qui nous manque cruellement aujourd'hui, c'est une dimension anti-impérialiste dans ce pays. On n'a malheureusement pas vu de grands mouvements exigeant le retour des troupes françaises en France. Et encore aujourd'hui, on le voit bien au Mali, ce sont les soldats français qui meurent au Mali et les Maliens qui sont tués également sont le résultat de cette politique d'intervention pour maintenir le contrôle français sur l'uranium du Niger et sur toute la zone.
Et par rapport à la politique vraiment de maccartisme et justement ce harcèlement des personnes musulmanes, etc., est-ce que toi, tu as l'impression que ce regard international peut limiter la France, peut la freiner, on va dire, dans cette dérive autoritaire intérieure, quoi, dans ce...
Oui, bien sûr. C'est là qu'on voit la porosité entre le national et l'international. En réalité, s'il y avait un grand mouvement de mobilisation dans les pays d'origine des musulmans ou supposait-elle de France, bien entendu que la peur des conséquences économiques amènerait la bourgeoisie française à faire attention à ce qu'elle fait. Et d'un autre côté, il est évident que le recul ici de l'islamophobie aura aussi des effets sur la fonction que joue l'islamophobie pour justifier les interventions militaires à l'extérieur. Donc on n'a pas affaire à deux fronts à ce niveau-là, on a affaire à un seul front qui est l'utilisation de la grille culturaliste de lecture, autrement dit expliquer les problèmes de notre monde, les problèmes de notre pays, les problèmes essentiels, non pas sur des bases économiques, des bases de conflits d'intérêts, des bases de classe sociale, mais les expliquer par la culture, la religion et l'opposition entre civilisations. Cette grille culturaliste de lecture, elle conduit à justifier des guerres à l'extérieur et elle conduit ici à l'islamophobie et à la présentation des quartiers populaires comme étant les dangers pour notre société.
Et justement, au niveau de ce clivage bien soigneusement entretenu entre, pour caricaturer, on dit quelquefois blanc ou non blanc, ou ça peut être aussi la religion, ça peut être etc. Tous ces leviers sur lesquels l'idéologie dominante essaie d'appuyer pour et ça marche d'une certaine façon puisque même dans les milieux militants, on voit, comme tu l'as très bien dit, par rapport aux trois lois répressives que tu as citées, ben, y en a une qui est moins uniformément soutenue que les autres, et c'est celle qui touche justement à ce clivage. Qu'est-ce qui cloche ? Comment on peut avancer ?
Alors, pour saisir d'abord pourquoi on insiste tant là-dessus du côté de la classe dominante, je voudrais rappeler un élément de base qui est souvent occulté, qui est de regarder notre structure sociale. Nous avons en France une situation particulière dans laquelle les classes populaires, je ne parle pas de la société française, mais les classes populaires, c'est-à-dire celles qui ont le plus intérêt à changer les choses, sont composées à près de 30%. Si je regarde les chiffres de l'INSEE, hein, c'est-à-dire si je regarde les ouvriers, les employés et ces deux classes-là, sont 30% d'entre elles sont composées de personnes issus de l'immigration postcoloniale. Et encore, cette dimension-là est sous-estimée parce que les statistiques ne nous permettent pas d'aller au-delà de la dite seconde génération, c'est-à-dire les petits descendants de l'immigré algérien du début du siècle, du siècle dernier, ces personnes continuent à être victimes de discrimination en fonction de leur couleur ou en fonction de leur religion ou en fonction de leur phénotype. Et donc, pour la classe dominante, réussir, donc 30% des classes populaires, c'est énorme. Réussir à cliver une classe qui est déjà clivée par toute une série de statuts, la cliver en plus avec un 70% de 30%, c'est la garantie qu'aucun changement structurel massif ne sera réalisé. Tant que nous n'aurons pas dépassé cette division qui est à la fois dans l'appareil de production avec des traitements différenciés et d'un autre côté dans le discours politique et les mobilisations, eh bien, nous ne nous en sortira pas. La classe dominante, elle a une clé pour éviter la remise en cause, massive de son système de domination. Alors, pour que ça marche, bien entendu, eh bien, ça suppose d'imposer un certain nombre de débats, idéologiquement, un certain nombre de débats, et c'est tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Ce sont les débats sur l'islam, danger pour la laïcité, les débats sur l'islam, danger pour le droit des femmes, etc., etc. Tous ces débats-là ne sont pas simplement le résultat d'une extrême droite qui aurait une éruption et qui aurait réussi à se diffuser comme cela. Elles sont aussi le résultat du besoin pour ce système social de diviser ces classes populaires en fonction de ce grand clivage qui est un clivage en fonction de l'origine. Alors, comment réagir face à ça ? Il faut d'abord prendre conscience de cela. Et il suffit de regarder un certain nombre de secteurs économiques pour s'apercevoir, regarder quels sont les types de personnes qui y travaillent. On a aujourd'hui une spécialisation tendanciellement, heureusement, une spécialisation dans certains secteurs. Regardons le travail à domicile, regardons le travail dans les hôtels, les femmes de ménage des hôtels, etc. Regardons un certain nombre de secteurs dans lesquels on s'aperçoit très bien qu'on a une hiérarchisation colorée du monde du travail. Alors, ça n'est pas une réalité nouvelle. De tout temps, la classe ouvrière a été stratifiée par le capitalisme. De tout temps, la concurrence entre les différents types de travailleurs, entre différentes strates de travailleurs, a été utilisée. Le capitalisme a comme caractéristique de mettre en concurrence tous les travailleurs en s'appuyant sur le sexe, en s'appuyant sur l'origine ou sur la couleur, en s'appuyant sur l'âge, en s'appuyant sur tout ce qui peut servir à stratifier, à hiérarchiser sous la forme d'une pyramide la classe ouvrière afin d'éviter qu'elle se sente partie prenante d'un projet commun et d'une cause commune, est utilisée. Il se trouve que, à l'heure d'aujourd'hui, ce principal clivage, le clivage le plus efficace pour les dominants, c'est la question de l'origine qui est le principal clivage. Alors, pour dépasser cela, eh bien, on peut avoir l'illusion qu'on va le dépasser en n'abordant pas les oppressions spécifiques qui touchent justement ces catégories de la population. Mais faire cela, c'est se tromper complètement de combat, parce que ces populations-là ne se reconnaîtront pas si on n'aborde pas les questions qui les oppriment. Si nous ne sommes pas capables de nous mobiliser sur l'islamophobie, ne demandons pas à ces personnes ensuite de se retrouver avec nous sur des combats qui les concernent, mais qui apparaîtront comme étant hypocrites au regard de ce qui les a touchés. Et donc toute la question qui est posée, c'est que nous n'avons, c'est en soutenant, en nous mobilisant sur les catégories les plus opprimées du monde du travail, que l'on construit l'unité, et non pas en masquant justement ces oppressions spécifiques. C'est toute la difficulté du contexte aujourd'hui. Ça n'est pas simple. Il faut à la fois unifier la classe, tout en ne taisant pas qu'elle est hiérarchisée et que certains d'entre eux sont dans des dynamiques de discrimination plus forte, d'inégalité plus forte, etc. La pandémie l'a montré. On peut élaborer une statistique des morts de la pandémie. Hein, si on met de côté les personnes âgées, on peut élaborer une statistique. On a d'ailleurs deux rapports qui ont, dont un de l'INED qui a particulièrement démontré que ce n'était pas indifférent aux classes sociales, tout le monde n'est pas mort de la même façon, et ça n'était pas indifférent à l'origine, en fonction des origines, on mourait plus que d'autres. Autrement dit, on voit bien que nous ne sommes pas à la même place sociale et que l'unité ouvrière ne signifie pas la négation de cette diversité ouvrière et que pour unifier, il faut prendre en compte les catégories les plus basses. C'est en défendant ceux qui sont les plus attaqués que l'on peut construire l'unité par le haut. Sinon, on va être dans une optique où on va avoir des luttes qui sont juxtaposées sans jamais s'attaquer à ce qui fait à ce qui fait point commun, c'est-à-dire le même système de domination. C'est le même système de domination qui exploite tout le monde et qui surexploite certains, qui précarise tout le monde et qui surprécarise certains, etc. Et donc, pour pouvoir prendre conscience du destin commun, eh bien, ça suppose une pensée systémique et donc de bien prendre en compte cette dimension d'un système de domination unique, même si c'est dans des traitements différenciés.
Alors, c'est pour aller beaucoup plus largement sur le thème du débat, quoique. En fait, depuis ce début de crise sanitaire, je me pose la question, et beaucoup d'entre nous, qui a intérêt à quoi dans cette histoire ? Dans la manière dont c'est géré au même niveau, au niveau mondial, dans les démocraties néolibérales, si on veut dire. Bien sûr, je ne vais pas aller sur les théories complotistes, tu dois avoir comme moi ce qui se dit. Je les mets entre guillemets, hein, complotistes, parce qu'on a le droit de se poser aussi des questions. Mais je regardais un petit peu dans l'histoire de l'évolution des crises monétaires. J'ai regardé ça sur Wikipédia, et elles sont de plus en plus fréquentes en fait, crise du système capitaliste et crise monétaire. Et aujourd'hui, il y a une espèce de guerre contre un virus, et souvent ces crises du capitalisme et crises monétaires ont été réglées par une guerre. Aujourd'hui, on est sur un autre registre, je parle de guerre mondiale, etc. Et je me dis pourquoi toutes les démocraties libérales sont gère la crise de la même façon, voilà, et au bout du bout, c'est quoi l'intérêt, qu'est-ce qui va se passer en fait, comment ils vont relancer la machine, il va bien falloir qu'ils la relancent, parce que quelque part le système de production est en crise, peut-être une crise monétaire qui arrive. C'est, je sais pas si tu as quelque chose à dire là-dessus.
Oui, trois petites choses. La première, sur la, tu as raison de mettre entre guillemets la notion de complotisme. Il y a des, effectivement des théories complotistes qui existent. Mais même ces théories complotistes existantes sont le reflet de, d'une recherche d'une explication systémique. Lorsqu'on est dans les théories de complot, on cherche une cause. Et c'est parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore capables de diffuser les véritables explications du système social dominant. C'est parce que nous avons reculé dans notre capacité à expliquer de manière massive ce qu'est que ce système social capitaliste qu'émergent ces théories du complot. Mais faisons attention de bien distinguer la critique de ces théories du complot de du discours sur les théories du complot, du discours sur le complotisme, qui est en réalité dans la droite lignée de ce que je disais tout à l'heure, nous empêcher de penser sur les causes. Aujourd'hui, dès que vous abordez la question des causes économiques, la question des intérêts, eh bien, on vous traite de complotiste. Et donc, faisons attention, ce discours-là sur le danger du complotisme est aussi un discours qui vise à nous interdire à penser les stratégies des classes dominantes. Bien entendu, il ne s'agit pas d'un complot, il s'agit de la défense d'intérêts mis en stratégie. C'est ça, tout simplement. Les classes dominantes ne sont pas passives. Elles défendent leurs intérêts en mettant en place des stratégies. Dans ces stratégies, à certains moments, il y a du complot. À d'autres moments, il y a de la manipulation. À troisième moment, il y a taire certaines choses et porter la focale sur d'autres choses. Ce sont des stratégies. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est le questionnement, tu as raison de le souligner, sur le jour d'après. Voilà, ça va être quoi l'après-pandémie ? Le coûte que coûte de M. Macron est un coûte que coûte qui a été arraché par l'ampleur de la crise, l'ampleur de la situation et la crise de légitimité. Mais déjà, dans son discours pour les vœux, là, il annonçait qu'il va bien falloir éviter que ce soit nos enfants qui payent. Qu'est-ce que ça signifie que de nous dire ça aujourd'hui ? Ça signifie tout simplement que dès que les conditions seront réunies, autrement dit, dès que nous ne serons pas plus dans une situation dans laquelle on ne sait pas jusqu'où la pandémie va nous mener, eh bien la question de qui paye la note va être posée. La centaine de milliards et plus d'euros qui ont été mis en avant pour réagir à la pandémie, eh bien on va présenter la note après. Et présenter la note sur une somme aussi importante, ça signifie très concrètement de nouvelles attaques sur les conquis sociaux qui nous restent, les derniers conquis sociaux qui nous restent. Autrement dit, si on a un regard un peu international, on sait à quoi ça mène. C'est exactement ce qu'ont vécu les pays du tiers-monde avec les fameux plans d'ajustement structurel du Fonds monétaire international dans les années 90, dans lequel l'exigence de remboursement, et là ça va être l'exigence du remboursement de ce déficit particulier, exceptionnel, qu'on aura eu, eh bien, ça a conduit à, dans certains pays, diminuer les salaires des fonctionnaires par quasiment deux, à détruire l'hôpital public, à détruire l'enseignement, etc. C'est-à-dire ce qui va être posé auparavant, ultérieurement, c'est qui va payer ces dimensions-là. Mais surtout, cela, ça va signifier également l'augmentation de la concurrence entre les grandes puissances. Et tu as raison de parler du lien avec la guerre. Sauf que le lien avec la guerre, c'est pas simplement un lien dans lequel on attendrait la troisième guerre mondiale. En réalité, si on a un regard international, et moi qui vis, dont les parents viennent d'un pays du tiers-monde, je suis obligé d'avoir ce regard international. Et la troisième guerre mondiale, en réalité, avec plein de guillemets, est déjà enclenchée. On a, si vous comptabilisez le nombre de conflits, le nombre de guerres, le nombre de peuples massacrés, le nombre de territoires dévastés, y compris le nombre de d'états-nations qui ont été écartelés. La Libye est écartelée en deux, trois morceaux. Le Soudan a été divisé par deux. La Somalie est un pays qui n'a plus d'unité réelle. Le Congo est partagé entre un certain nombre de groupes pour le plus grand bien des pilleurs que sont les multinationales. Autrement dit, on voit bien à ce niveau-là que les logiques de guerre, elles sont déjà présentes. Elles sont déjà présentes simplement, ça se fait par état du tiers-monde interposé ou par justification d'ingérence à un moment donné ou à un autre. Mais ces logiques de concurrence qui mènent à la guerre, eh bien, effectivement, peuvent s'aggraver à l'issue de la pandémie peuvent s'aggraver parce qu'effectivement, nous n'étions pas encore sortis de la crise de 2008 qu'arrive cette crise-là. On sait aujourd'hui également que les avoirs bancaires et la financiarisation sont à un niveau tel que les bulles qui peuvent éclater nous présenteront des crises encore plus importantes que 2008. Alors oui, nous entrons dans une ère de déstabilisation monétaire, de déstabilisation économique extrêmement importante, avec des concurrences entre grandes puissances qui peuvent conduire à des logiques de guerre plus importantes. On le voit bien dans les équilibres géostratégiques aujourd'hui, entre le discours sur la Chine, le discours sur le rapprochement Chine-Russie. On voit bien que des blocs sont en train de se constituer qui sont porteuses de dangers danger pour la planète.
Toi, tu parlais de cette crise sanitaire comme un moment où justement le pouvoir ne fait plus illusion sur ses incapacités à gérer la crise, etc. Est-ce que pour toi, on est sur finalement un catalyseur des mouvements sociaux ou au contraire quelque chose qui est plus de l'ordre de la sidération et où on va mettre un certain temps avant de se remobiliser et de repenser politiquement les causes voilà, on va mettre un certain temps avant de rebondir.
Alors, ce qu'il y a de... J'ai pas la réponse complète à la question, sinon... sinon, on saurait comment faire. Ce qui est certain, c'est que il y a une dimension qui pour moi a été une agréable surprise. Ça a été dès que les conditions du confinement l'ont permis, ça a été le retour de grandes manifestations. Quasiment dans la semaine qui a suivi la possibilité de manifester, on a vu le retour de grandes manifestations. Ce qui veut dire que, au moins pour une partie de la population et sur les franges militantes, c'est le discours idéologique général et la pandémie n'ont pas eu un effet de tétanie. Par contre, sur le reste de la population, on a effectivement des dimensions de tétanie et de peur qui existent. Alors, je pense que il faut vraiment qu'on se dise que nous sommes sur une période historique dans lequel nous sommes sortis de la juxtaposition et nous sommes dans une dimension cumulative. Moi, je le perçois bien dans les dernières manifestations où j'ai vu des gens qui n'étaient pas dans les manifestations auparavant et qui se retrouvaient là. On a vu des personnes qui se sont socialisées politiquement dans le mouvement des Gilets jaunes et qui étaient là dans la manifestation sur la loi contre le séparatisme. On voit bien que les personnes qui se sont opposées au gouvernement se sont socialisées politiquement et ensuite bien élargissent leur discours critique à d'autres fronts que ceux sur lesquels s'étaient mobilisés initialement. Donc on est dans une course de vitesse aujourd'hui, et c'est pour cela que le gouvernement accélère les choses, une course de vitesse entre un mouvement de conscientisation qui pousse à la convergence, et d'un autre côté, la peur, la tétanie et la porosité au discours dominant. Je pense qu'il faut surtout ne pas être dans une logique aujourd'hui qui serait de dire « on va attendre ». L'urgence, c'est de continuer les mobilisations, parce que c'est dans les mobilisations que se constituent les conditions de dépasser les obstacles actuels.
Noir en bas de l'échelle, ça dure depuis des siècles. Boy constate, femme de chambre sans lire Toni Morrison. Back to the roots comme Essista après un big shop. Serrer les coudes, faire bloc les watts, sème la discord. Check check, ça vient de l'Est, t'as reconnu la voix claire. L'addiction, le genre de texte qui perce les oreilles. Une ancienne avec le visage de ta petite russe. Tout babou-mousseau envie ma jeunesse et chum. On s'y aide pour que dalle, on porte les mêmes stigmates. Ici y'a pas de rival, tout ça et Madame Chiman. Trois quarts mes sœurs portent issu sur la cabessa. Cheminement spirituel, y'a pas de beubard qui dicte ça. Ouais, c'est simple, la foi c'est le moteur. Je le répéterai jamais assez, ben ouais, refrain c'est le mot d'ordre. Ouais, c'est simple, la foi c'est le moteur. Je le répéterai jamais assez, ben ouais, si ça c'est le mot d'ordre. Seule la foi m'accompagne, je lève les mains si ça se tape, mais n'insulte pas ma maman, sinon je te m'aiderai. Seule la foi m'accompagne, je lève les mains si ça se tape, mais n'insulte pas ma maman, sinon je te m'aiderai.
suis pas la sœur d'un tel à croire qu'on est toutes les mêmes. Moi je suis fille de femme de ménage, cherche ma place en jungle urbaine. Sous-estimée, on complexe, aveuglée par le rallye, s'éclaircie par le rallye sale. Et confiance n'a pas besoin de ça. On a vécu des décès, des frères incarcérés, expulsés sans arrêter, mais qui peut nous stopper? On est paré à la sentence depuis l'époque des pampères, élevé par de grandes reines que l'humanité renverse. Qui se démerde en 8 phrases, qui démarre si tu jactes. Parfumé au tuorail, on colonise leurs espaces. Je veux rendre fiers les miens, les anges gardiens dans l'au-delà. Ne pas faiblir comme un satan quand je kick le mic, c'est denja. Je fais mine de les écouter, mais je les écoute pas, non. Mine de les écouter, mais je les écoute pas, non. Ils veulent me foutre dans une case, alimenter leurs fantasmes, mais ils ont du mal à me cerner, boy, derrière mes colonnes colossales. Seule la foi m'accompagne, je lève les mains si ça se tape, mais n'insulte pas ma maman, sinon je te mets des. Seule la foi m'accompagne, je lève les mains si ça se tape, mais n'insulte pas ma maman, sinon je te mets des.
At this point, I think that it is important to make one thing very clear. I have advocated, and I still advocate, an end to capitalist exploitation, the abolition of racist policies, the eradication of sexism, and the elimination of political repression. If that is a crime, then I am totally guilty.
Personne au monde, personne dans l'histoire n'a jamais obtenu sa liberté en faisant appel au sens moral de ceux qui l'oppriment. C'est une citation d'Assata Shakur, personnalité importante des Black Panthers, à laquelle la chanson que nous venons d'écouter, du même nom, donc Assata Shakur de Riam, est consacrée. C'était donc la fin de l'interview de Saïd Bouamama. Pour poursuivre l'émission, on vous propose maintenant d'écouter un reportage qui a été réalisé en décembre dernier du mouvement de grève des agents d'entretien et des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles et des animateurs et animatrices périscolaires tous ces agents qui travaillent dans les écoles de la mairie de Grenoble et qui sont en grève depuis maintenant plusieurs semaines. Le mouvement continue et on vous propose d'en découvrir ou redécouvrir les revendications à travers ce petit reportage qui a été réalisé par Précaire Solidaire.
J'ai une jolie blouse, des cernes sous les yeux, un petit salaire, un gros lumbago, un super métier.
Solidaire et puis qu'on est tous ensemble et puis et qu'on se soutient voilà, moralement et physiquement. Tout le monde a des revenus précaires, ils ont des mini-contrats, ils sont payés au lance-pierre, on est tous payés au lance-pierre, ils sont payés après un mois plus tard.
Moi je suis à SEM, normalement sur le temps de midi et deux, je suis accompagnée des enfants à table, je partage des repas, c'est de la convivialité, on parle de ce qu'il y a dans leurs assiettes, ce qu'ils mangent à la maison. Mais aujourd'hui, depuis 4 mois, je n'ai plus aucun moment de convivialité et d'apprentissage avec eux. Pour les agents, c'est encore pire, à mettre la table, débarrasser, remettre une table pour un deuxième service. Ça fait 4 mois qu'on suivit et aujourd'hui, on n'y arrive plus. Les élus ne veulent pas l'entendre, la municipalité ne veut pas l'entendre, mais du coup, on est là et on va rester ici.
Attention, attention là.
On est là, même si la tête ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs, pour un salaire meilleur, parce qu'on est plein de douleurs, on est là.
Donc aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour protester contre la précarité mise en place par la municipalité de Grenoble. Moi, je suis ATSEM titulaire. Je paye plein pot les dégâts de la précarité qui touche toutes mes collègues non titulaires qui gagnent des mois où il y a les vacances 300 euros alors qu'elles ont la même plénitude horaire que les titulaires, c'est-à-dire 40 heures par semaine. Il y a une pénurie de remplaçantes ATSEM qui est en place. Aujourd'hui, la ville de Grenoble ne trouve
n'existe plus du tout de remplaçantes ATSEM puisqu'elles vont partir travailler, elles sont parties travailler dans des villes comme Meylan. Avec le nouveau protocole lié à la Covid, les agents qui sont mis en protection ne sont évidemment pas remplacés et on se retrouve avec des effectifs de 21 enfants en cantine. Nous sommes fatigués, sous-payés, surchargés de travail.
Donc en tant qu'agent d'entretien dans les écoles, nous en avons marre, on va dire ça comme ça, du travail très difficile, de non-remplacement du personnel qui est malade ou qui. Voilà, manque de personnel, on manque d'effectifs, tout ça, on est là pour vraiment pas manifester pour la précarité de certains agents. Voilà, nous ne sommes pas soutenus par notre employeur.
Donc, et pas entendus par notre employeur.
Voilà, c'est ça. En ce moment, avec la crise sanitaire, donc on a un protocole très difficile et qu'on doit suivre les règles d'hygiène. Donc il y a des fois que c'est pas possible et qu'on fait vite notre travail parce que manque de personnel ou le personnel arrive, des remplaçantes arrivent, mais qui ne sont pas formés, et donc on perd du temps pour nous et pour eux.
Et on soutient aussi les ASEM parce qu'elles n'ont plus le rôle d'ASEM, d'animatrice pendant le temps de midi. C'est pas que c'est pas notre rôle, on peut les aider, mais du coup on a un double travail le matin en temps de ménage et à la cantine. Ce qui fait que là, on n'en peut plus, quoi.
Donc, on rentre chez nous, on est fatigué, nous aussi, on a une vie de famille, et c'est plus tenable, on craque, arrivé à un moment, on craque, on n'y arrive plus.
Je parle au nom des personnes qui sont monoparentales,
voilà.
Dont moi, dont toi, Nana,
et beaucoup d'autres comme
beaucoup
ça.
D'autres personnes, des papas seuls avec des enfants, et c'est pas évident. On doit être présente la plupart pour les enfants, il y a les devoirs, on doit les écouter, on doit être. On fait tout, on est infirmière, on est assistante sociale, on est tout à la maison, et en même temps, il faut rajouter le travail du quotidien.
Et voilà, c'est la fin de notre émission Micro-Ondes. On se retrouve la semaine prochaine pour une rediffusion de cette émission et début février pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de Radio Campus Grenoble. Et surtout, on peut se retrouver tout de suite maintenant à 14h, Place Verdun, pour une manifestation contre les lois liberticides. Donc une manifestation qui est prévue pour le 16 janvier à 14h, Place Verdun, et qui est évidemment une manifestation qui est déclarée. On vous souhaite une bonne journée et à bientôt sur les ondes de Radio Campus Grenoble.